demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 20 janvier. Nous ferons le point sur l'épidémie de Covid-19 en métropole de Lyon. Un rassemblement des personnels de l'éducation est prévu ce jeudi à 17h devant le rectorat. La nouvelle affaire de pédophilie dans le diocèse de Lyon. L'abbé Louis Ribes, originaire de la Loire, est passé par les diocèses de Lyon et Grenoble. Il aurait abusé sexuellement de nombreux enfants et jeunes. La réaction d'Olivier de Germay dans cette édition, l'archevêque de Lyon. La Compagnie nationale du Rhône devrait voir sa concession prolongée jusqu'en 2041. Explication dans cette édition. Lyon candidate au programme européen des 100 villes climatiquement neutres. La métropole de Lyon, pour sa part, décide de prolonger la concertation autour de la ZFE, la zone à faible émission. Une prolongation jusqu'au 5 mars. Le cyclotourisme a lui aussi le vent en poupe. On peut faire du vélo en ville, mais également pour voyager. Le témoignage d'Alice, une Lyonnaise de 55 ans, qui a passé 6 mois sur les routes d'Europe. Elle nous racontera son périple. Et puis nous parlerons de sport, le Loup qui devrait présenter une belle équipe, notamment pour le dernier de ses matchs de poule, vendredi, donc demain, en Challenge Cup. Nous parlerons également de la reprogrammation de la rencontre Olympique Lyonnais-Olympique de Marseille.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Le Rhône reste le département le plus touché par l'épidémie de Covid-19 en métropole, avec un taux d'incidence de 4179 cas pour 100 000 habitants sur la semaine glissante du 10 au 16 janvier. Ce taux atteint même les 4333 cas pour 100 000 habitants sur le territoire de la métropole de Lyon, donc le Grand Lyon. Le deuxième département le plus touché est la Haute-Savoie, avec 4008 cas pour 100 000. Le variant Omicron est désormais à l'origine de la quasi-totalité des contaminations en Auvergne-Rhône-Alpes. Le pic des contaminations n'est toujours pas atteint et la pression hospitalière reste forte avec 112 nouveaux patients admis entre mardi et mercredi, dont 11 en réanimation. 866 patients positifs au Covid étaient hospitalisés dans les hôpitaux du Rhône hier, 177 en service d'urgence. Un rassemblement des personnels de l'éducation est prévu ce jeudi à 17h devant le rectorat. Plusieurs syndicats demandent du matériel de protection en nombre suffisant, des créations de postes pour assurer les remplacements, le report des épreuves de spécialité de mars pour les lycéens. Le SNES, le syndicat national des enseignants du second degré, pointe du doigt aussi les moyens annoncés pour la prochaine rentrée, notamment dans l'Académie de Lyon, qui regroupe le Rhône, la Loire et l'Ain. Des moyens qui ne permettront pas d'avoir moins d'élèves en classe. Le mouvement de ce jeudi devrait être nettement moins suivi que celui de la semaine dernière. Une journée de grève et de manifestation interprofessionnelle est prévue en effet le 27 janvier, donc jeudi prochain.
Lyon demain, la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde.
Décédé en 1994, l'abbé Louis Ribes, originaire de la Loire, est passé par les diocèses de Lyon et Grenoble. Il aurait abusé sexuellement de plusieurs enfants et jeunes dans les années 70-80. Il les approchait notamment dans le cadre de ses activités artistiques. Il était, je vous le rappelle, surnommé le Picasso des églises. Cette nouvelle affaire de pédophilie a fait réagir hier le primat des Gaules, Olivier de Germay, archevêque de Lyon, qui s'est dit atterré par la perversité du prêtre. On l'écoute.
Je suis personnellement atterré par la perversité de ce prêtre qui a abusé de l'innocence de tant d'enfants et je suis profondément bouleversé par la souffrance de ses victimes, une souffrance lancinante et toujours présente chez la plupart d'entre elles, même si les faits sont anciens. Tout cela nous laisse penser que les victimes du père Louis Ribes sont malheureusement certainement très nombreuses. Je souhaite donc donner la priorité aux personnes victimes et faire en sorte que l'Église ne se dérobe pas à ses responsabilités. Même lorsqu'il s'agit de cas anciens, dont on peut se dire personnellement innocent, nous souhaitons assumer le fait que l'Église n'a pas su se démarquer de la culture de l'époque, qui était une culture du silence ou du déni, et où on cherchait avant tout à protéger l'institution. En tant que membre de l'Église, nous nous sentons concernés par ce qui s'est passé et souhaitons porter le poids de la faute de quelques-uns.
Olivier de Germay, l'archevêque de Lyon, une instance indépendante de reconnaissance et de réparation sera mise en place. Objectif, recevoir les victimes et étudier avec elles la meilleure façon de les aider dans leur chemin de reconstruction. Cette instance sera opérationnelle en février.
Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
La Compagnie nationale du Rhône, la CNR, gère les aménagements du fleuve depuis 1921. Ses trois missions principales, la navigabilité, l'irrigation et la production hydroélectrique. Elle représente à elle seule 24% de la production française. Sa concession s'achève en 2023, mais le contrat devrait être renouvelé sans passer par un appel à concurrence. La proposition de loi relative à la prolongation de cette concession jusqu'en 2041, portée par le député MoDem de Savoie, Patrick Mignola, cela a été adopté en effet en première lecture par l'Assemblée nationale. Sur le plan juridique, le risque de contentieux européen a été levé en mettant en avant la triple mission de service public de la CNR. La seule considération de la production électrique aurait pu conduire à l'obligation de mise en concurrence. La CNR a la gestion de la quasi-totalité du Rhône, il faut le rappeler, et notamment du port Édouard Herriot aux portes de Lyon, un port qui doit jouer un rôle important dans la transition écologique avec son hôtel de logistique urbaine et le quai des énergies. Lyon se dit prêt à relever un défi de taille, candidater au programme européen des 100 villes climatiquement neutres, faire en sorte de réduire à zéro le niveau des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Plus de 70 partenaires ont affiché leur soutien à cette candidature. La métropole, le préfet, les universités, EM Lyon, la CNR ou encore Vinci Immobilier, Bouygues Bâtiments, Renault Trox ou encore le MEDEF. Le dossier sera déposé le 31 janvier, décision en mars. Si la ville de Lyon est retenue, elle pourra bénéficier de financements pour des projets pilotes. Alors qu'elle devait se clôturer le 5 février prochain, la métropole de Lyon a décidé de prolonger la concertation autour de la ZFE, la fameuse zone à faible émission. Une prolongation donc d'un mois jusqu'au 5 mars, au vu du contexte sanitaire. Une réunion de synthèse se tiendra le mardi 1er mars. Mise en place en janvier 2020 pour les véhicules professionnels, la ZFE doit être étendue aux véhicules des particuliers à partir de juillet 2022, suivant un calendrier qui reste à définir.
Lyon demain, les Lyonnais vont vous surprendre.
Il n'y a pas que le vélo urbain qui a le vent dans le dos. Le cyclotourisme connaît lui aussi un regain d'intérêt. Partir visiter une région, un pays ou un continent offre de belles sensations, à condition d'avoir bien préparé son voyage et bien choisi son équipement. À 55 ans, Alice a choisi de faire un break de 6 mois dans sa carrière professionnelle. Un congé sabbatique qui lui a permis de traverser de nombreux pays du sud de l'Europe jusqu'à la mer Noire. Elle nous raconte son périple.
J'avais très envie de voyager depuis très très longtemps. Et puis bon, après, la situation de la vie, la famille, le boulot, les enfants, les études, fait qu'on est dans un espèce de tourbillon. Et puis à un moment donné, on se dit, maintenant, on en est là, quoi, à 55 ans, et je suis en forme, donc maintenant, je vais le mettre en œuvre, ce voyage.
Alors l'idée, c'était quoi? C'est de traverser plusieurs pays. C'était quoi exactement?
Au départ, je voulais faire un voyage donc, sur une année, avec un morceau en Amérique du Sud, et puis donc un voyage à vélo. Et puis finalement, avec la situation sanitaire, j'ai décidé donc de faire uniquement un voyage à vélo. Et du coup, je me suis dit que, pour un premier voyage à vélo, voyager en Europe, ce serait facile au niveau de la communication, etc. Donc, en étant parti en juin, j'ai décidé de faire plutôt l'Europe du Sud, d'aller jusqu'à la mer Noire, parce que ça, c'était un petit peu un truc, une espèce de rêve, quoi, de voir la mer Noire. C'est comme un espèce de bout du monde.
Quel parcours, alors?
Donc, le parcours, ça a été donc l'Italie, un bout de la Suisse, donc des Grisons, les Dolomites, ensuite encore en Italie, toute la Slovénie, très beau pays, Croatie, Bosnie, Serbie pour l'ex-Yougoslavie, et puis la Roumanie, donc jusqu'à la mer Noire, et ensuite redescendu par la Bulgarie, la Grèce continentale, et retour par l'Italie via les Pouilles, la Sicile et la Sardaigne.
Avec quel moyen de locomotion finalement alors?
Alors avec mon vélo, donc un vélo que j'avais fait faire il y a 2 ans, pour un peu un vélo multi-usage, route, chemin, et du coup que j'ai adapté en vélo de voyage, donc c'est un vélo qu'on appelle vélo gravel, donc qui peut aller aussi bien sur la route que sur les chemins, et que j'ai équipé de porte-bagages et de sacoches.
Comment s'est passé alors ce périple? Donc tu pars de France.
Donc je suis partie de France avec donc des outils, donc une carte sur mon téléphone. Donc j'avais téléchargé des cartes sur mon téléphone, et après j'ai utilisé différentes applications comme Komoot, Maps.me, ou une application que j'ai découvert en cours de route qui s'appelle Mappy.cz, une application tchèque. L'avantage de ces applications, c'est qu'elles sont qu'elles fonctionnent hors ligne, c'est-à-dire en mode avion, et que du coup, on n'a pas besoin d'internet.
Donc, tu fais quoi? Tu prévois tout d'avance, ou est-ce qu'il y a une adaptation un petit peu au fil du voyage?
Alors, j'avais prévu des grandes lignes, et j'avais beaucoup prévu au départ, mais je pense que c'était un peu rassurant d'avoir un parcours très établi au départ. Donc, effectivement, les 3 premières semaines, j'ai plutôt suivi le parcours que j'avais établi, et puis après, je me suis plutôt laissé guider par les rencontres, les bons plans des locaux, des gens que j'ai pu rencontrer, pas forcément en vélo, mais beaucoup des locaux, en me disant tiens, là il faut aller là, c'est très sympa, et du coup je changeais mon parcours si je voyais que c'était possible. Enfin, comme j'avais du temps et que j'étais seule, je pouvais arbitrer comme j'avais envie.
Quelles ont été les problématiques que tu as eu à gérer, notamment par rapport au vélo?
Alors la problématique par rapport au vélo, finalement pas grand chose. J'avais un vélo très bien bien préparé, où j'avais bien vu tous les différents éléments, avec un ami à moi qui est mécano de vélo, Franck, que je remercie d'ailleurs parce que ce vélo a vraiment tenu tout le voyage et sans grande difficulté. Bon, j'ai eu une hernie à un pneu, donc moi, ça, voilà, ça fait partie des petites galères, donc pneu mort et j'avais pas pris de rechange. Mais du coup, j'ai attendu mon pneu pendant 3 jours, puis c'était au fin fond de la Bosnie, on me l'a livré. Et du coup, j'en ai profité pour rencontrer des jeunes très sympas qui sont restés avec moi, m'ont fait découvrir le coin où j'étais. Une Bosniaque et un Hongrois qui vivaient en Serbie, donc j'ai appris beaucoup de choses sur l'ex-Yougoslavie à ce moment-là, c'était très intéressant.
Alors justement, est-ce que le vélo facilite les échanges quand on voyage comme ça?
Alors moi, j'ai trouvé que c'était assez facile. Alors d'abord, les gens sont curieux, posent des questions, d'où je viens. Donc c'est vrai que pour eux, ça leur paraissait, quand on était au fin fond de la Serbie et que quelqu'un te dit, tu viens d'où, t'es une femme seule, j'arrive de France avec mon vélo. De France avec ton vélo? Oui. Donc ça facilite les échanges. Et effectivement, dans les Balkans, les gens sont très sympas, très hospitaliers. Il y a même des gens qui m'ont invité à dormir chez eux. C'est un petit peu la magie du voyage, quoi, les rencontres.
Alors justement, les rencontres, quelques-unes un peu atypiques.
Et ben dans les rencontres atypiques, Mira, donc cette femme en Serbie là qui m'a accueilli chez elle suite à une non-rencontre avec quelqu'un qui devait me rejoindre parce qu'elle n'avait pas de réseau. Donc elle m'a invité à poser ma tente dans son jardin et du coup on a eu toute une discussion avec cette femme et du coup on est toujours en relation très très sympa. Après d'autres personnes que j'ai rencontrées, des Bulgares dans une auberge jeunesse qui m'ont donné un bon plan sur une adresse en Sicile où je me suis rendue avec mon père qui était aussi en vélo avec un vélo électrique et où là on a rencontré une femme aussi exceptionnelle qui tenait donc un restaurant au bord de la plage qui accueillait des kitesurfers. Voilà, donc ça fait partie des rencontres sympathiques qui resteront gravées.
Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait faire un petit peu la même chose, suivre un peu ton exemple?
Qu'il faut oser, tout juste oser. Après, on a des réseaux, on a des blogs, des pages, des gens qui ont fait des choses, des échanges, des pages Facebook. C'est très rassurant, on peut poser des questions, même au long du voyage. Des fois, je me suis posé des questions, est-ce que je peux prendre le train avec mon vélo dans ce pays? Hop, tu postes un petit message sur une page Facebook et il y a quelqu'un qui te répond, là, en Roumanie, tu peux faire comme ça, là, tu peux pas. Et hop, tu trouves une solution.
Plein de beaux souvenirs, mais aussi peut-être des moments galères. Le pire, c'était quoi?
Alors, le pire, c'est quand la guichetière de la SNCF roumaine m'a refusé un ticket avec mon vélo et que j'ai dû faire 100 km sur une double voie. Ça a été mon pire souvenir. Sinon, globalement, je crois que j'ai pas beaucoup de mauvais souvenirs.
Est-ce que les routes d'Europe sont bien équipées pour le vélo? Est-ce qu'il y a des pistes partout ou en bataille parfois?
Alors, il y a pas beaucoup de pistes faites pour les vélos. Alors, dans les grandes villes, dans Belgrade, très bien aménagé. Oui, en Roumanie aussi, Bulgarie, dans les grandes villes. Dans les grandes villes, globalement, c'est assez efficace. En Italie aussi. Après, on trouve beaucoup de réseaux de routes secondaires si on sait servir d'une carte où on peut vraiment trouver des petites routes où on croise personne.
Si c'était à refaire?
À refaire. Demain.
Alice Gainsburger qui a effectué donc ce tour d'Europe, l'Europe du Sud. Faire de la France la première destination vélo touristique au monde d'ici à 2030. C'est un des objectifs du plan Destination France qui a été annoncé par le Premier ministre en novembre dernier, avec en particulier le développement de véloroutes, la création d'aires de service le long des itinéraires cyclables et le développement du label Accueil Vélo. La commission des compétitions de la Ligue de football professionnelle a décidé de reprogrammer la rencontre OL-OM, comptant pour la 14e journée de Ligue 1. Le match avait été arrêté au bout de 4 minutes seulement, après un jet de bouteille ayant atteint le phocéen Dimitri Payet à la tête. En cas de qualification de l'Olympique de Marseille pour les quarts de finale de la Coupe de France, la rencontre se jouera le mardi 1er février à 21h. La Ligue prévoit aussi une élimination marseillaise en Coupe, et dans ce cas, le match OL-OM se jouerait le jeudi 10 février. La rencontre se jouera à huis clos au Groupama Stadium. Le Loup devrait présenter une belle équipe pour le dernier de ses matchs de poule. Ce sera vendredi en Challenge Cup et ce sera face à Trévise. Les Lyonnais ont déjà validé leur qualification pour la suite de la compétition. Les hommes de Pierre Mignoni essayeront néanmoins d'ajouter un 4e succès d'affilée dans leur escarcelle histoire d'assurer la première place. L'international Dylan Cretin pourrait faire sa rentrée après blessure face à Trévise. Pierre-Louis Barassi ne devrait quant à lui faire son retour que la semaine prochaine pour l'important des placement en top 14 à Perpignan. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes. En attendant, restez prudents, mais passez une excellente journée.